Chapitre 13. Monsieur Jaume se dérobait obstinément à ses promesses. Alors, les deux associés, alarmés, un jour du déficit persistant de leurs recettes, résolurent de frapper un grand coup de diplomatie. Ils envoyèrent à sermander leurs épouses, messagères plus séduisantes et plus têtues. Monsieur Jaume aimait les femmes, leur compagnie, leur bavardage. Mais Léon, ni Sébastien, n'imaginèrent une seconde que ce rentier mal léché osa, se comparant à des hommes de leur condition, avoir envie du mets délicat de leurs épouses. Dans le tram qui les amenait à la porte de Vincennes, celles-ci frémissaient d'un certain orgueil à la pensée de la mission que leur maître confiait à leur intelligence. Elles devaient aujourd'hui même non seulement enrôler M. Jaume dans l'association, mais lui emprunter de l'argent. Jouerait-elle, à la satisfaction des trois hommes et d'elle-même, leur emploi d'ambassadrice? Elle préparait, à voix basse, en plaisantant, les pièges où se laisserait prendre le vieux coq vaniteux de Saint-Mandé. Et, par des allusions à sa rapacité, elle soulevait parfois un coin de leur âme tremblante. Si Berthe remarquait sans étonnement chez Mathilde la jouissance d'aller à l'improviste tenter un homme dans sa maison, Mathilde ne cachait guère son plaisir de constater chez Berthe une confirmation nouvelle de ses goûts d'indépendance et de perversité. Berthe s'était attifée avec prétention. Des bottines à talons très hauts, une peinture de rouge et de blanc sur son maigre visage, de grosses bagues aux doigts. Hors du tram, dès la porte de Vincennes, elles se hâtèrent par l'angle rue de Paris vers le bois. Berthe, sur un ton d'effronterie, s'écria « Qui de nous deux préférera-t-il ? Tiens, tiens, croyez-vous que moi... » Non, parbleu, on ne cédera pas à M. Jaume un pouce de son corps. Il est trop mal ficelé. Mais empêcherons-nous le libertinage ? Je l'espère. Le rencontrerons-nous seulement ? Oh oui, et vous allez voir quel rustre ! À la grille de M. Jaume, Mathilde sonna discrètement. Il apparut bientôt, non sans bougonner. Apercevant Berthe auprès de Mathilde, il bougonna davantage, le front baissé. Cependant, il réprima sa mauvaise humeur et, pour paraître bien élevé, généreux, il descendit avec entrain vers la grille. « Nous vous dérangeons ?» lui dit Mathilde. « Ma foi, non, » répliqua-t-il. « Plus on est, plus on rit. » Il se planta bravement entre les deux femmes. Puis, les ayant pressées l'une et l'autre sur ses flancs énormes, il les conduisit au perron, d'un pas doux, en cadence. Dans le salon, il s'assit sur le canapé, auprès de Mathilde. Goguenard, il demanda « Ce n'est pas en allant à la promenade, je pense, que vous vous arrêtez chez moi ce matin. Qu'y a-t-il pour votre service ?»« Nous venons prendre votre décision au sujet de notre commerce de vin. On l'attend depuis des mois. » Aïe, vous êtes roublardes, vous autres, et vos maris également. Ils savent que leurs dames les serviront auprès d'un célibataire. Non, monsieur Jaume, c'est à cause de notre amitié. Amitié sincère, oui. Mais alors, ça ne marche donc pas, le magasin ? On veut qu'il marche mieux. Je sais, on me l'a déjà dit. Monsieur Jaume, déclara Berthe, qui prétendait dépasser Mathilde en audace et en autorité, vous serez bien gentil de nous avancer, naturellement sur hypothèque, une quinzaine de mille francs. Bigre, 15 000 ? Une main velue à ses lèvres, M. Jaume poussa un soupir d'anxiété. Puis, après avoir observé le visage impassible de Mathilde, il parut se décider de bonne grâce. D'abord, faisons le tour de mon domaine. Berthe, comme son mari, admira, au fond de l'enclos, les ceps d'une treille, le poulailler cossu, qui lui rappelèrent les jardins de son Languedoc. Assez loin, vers le perron de la salle à manger, Mathilde s'en alla revoir la fleur sauvage au cœur rouge, le joyau du domaine. Monsieur Jaume, dardard, la rejoignit, et puisqu'on n'avait pas le temps de s'égarer en fadaise, il lui dit « Je donnerai beaucoup si vous me fixez un jour. » « Je ne dis pas non, » murmura Mathilde. « Ah, enfin ! Mais d'abord, c'est à Madame Baudouin qu'il faut vous attaquer. »« Hein ? Pourquoi faire ? Elle me suit partout, elle m'épie jusque dans mes pensées. Je suis sûre que, si je cédais à vos intentions, elle l'apprendrait tout de suite. On se cacherait pourtant. Ici, personne... Impossible. Rien n'échappe à son flair de policière. Elle me dénoncerait et je serais perdue. Alors, comment faire ? Je vous l'ai dit, elle a une envie folle de se rajeunir par l'amour. Qu'elle succombe donc entre vos bras la première. Moi, par votre connivence, je surprendrai son secret, et, dame, elle ne pourra plus me dénoncer sans se trahir elle-même. Parfait, parfait, la poire est un peu mûre. N'importe, pour vous conquérir, que des preuves n'affronterait-on pas ? Il lui parlait dans le visage, sourdement, avec frénésie. Elle dut le repousser. Que Madame Baudouin ne nous remarque pas si longtemps ensemble. D'ailleurs, écoutez-la qui nous appelle. C'est le moment de lui proposer votre affaire. Inventez un moyen de vous débarrasser de moi, ne fût-ce qu'une demi-heure. » Berthe, au poulailler tout couvert de soleil, s'amusait à jeter des cailloux sur les poules. Monsieur Jaume, doucement, s'entraîna jusqu'à elle et, brusque, lui taquina la taille. « Eh, eh, Madame Baudouin, vous aimez les bêtes ?»« Beaucoup, » répondit Madame Baudouin, qui sursautait d'étonnement. « Si vous veniez me voir de temps à autre, je vous en offrirais. »« Vous promettez toujours, vous ne tenez jamais. »« Ça dépend, ça dépend. Je tâche de ne pas être dupe. »« Oui, vous êtes un finaud. » Il lui plut à Monsieur Jaume d'être complimenté pour son esprit des choses pratiques. Espérant par son dévouement gagner Mathilde, qui, feignant l'indifférence, marchait vers le pavillon, il trouva du goût à cette damette un peu maigre, chaude comme une caille servie à point sur la table. Il la souleva d'une poigne énergique et, tandis qu'ému de perdre pied et de fermer les yeux, il la baisa au front, dans les cheveux touffus. Elle, fière encore de la vertu de ses charmes, se serra avec reconnaissance contre ce riche, dont la sincérité lui en imposait. « Vraiment, dit-il tout bas, êtes-vous venu pour traiter d'affaires sérieuses ?»« Ma foi, oui. Croyez-vous que ce soit pour nous divertir ?»« Oh, l'un n'empêche pas l'autre. » Elle balança la tête avec une gentillesse de demoiselle complaisante et murmura « Ma foi, qui sait ?» Mais, au moment de succomber à la faute irréparable, un scrupule arrêta sa volonté, un soupçon qu'elle pouvait être victime de quelque supercherie. Elle toisa M. Jaume patiemment, avec ses petits yeux luisants comme de l'huile, et demanda « Vous ne dites plus rien à Mme Lampéric ?»« Oh, celle-là, c'est du salpêtre, quand je veux !»« Ah ah ! Elle vient souvent ici ?»« Chut, nous allons l'éloigner tout de suite !» Pourquoi ? Chut, vous me comprenez ? Il la poussait du coude avec malignité en clignant de l'œil. Elle se tut sans force. Monsieur Jaume, déjà, s'avançait vers le salon où il appela les deux messagères, très attentives, de la maison Baudouin-Lampéric. Écoutez, mesdames, je veux que vous soyez contentes de moi. Vous annoncerez à vos maris qu'avant 15 jours, j'aurai signé mon acte d'association. En attendant, combien puis-je vous donner aujourd'hui ? Berthe, qui se targuait à présent d'une certaine familiarité, discuta, non sans expérience, le chiffre de 15 000 francs. Monsieur Jaume, après avoir lutté avec précaution, finit par en accorder 10 000. Et il conclut : Madame Baudouin voudra bien me délivrer un reçu provisoire. Elle viendra là-haut, dans ma chambre, recevoir mes obligations du crédit personnel. Et vous, Madame Lampéric, vous serez tout à fait aimable d'aller me chercher une feuille de papier timbré. Volontiers, acquiesça Mathilde. Le bureau de la régie est assez loin. Je ne vous l'indique pas parce que ce serait embrouillé. Dehors, n'importe qui vous indiquera ça. Parfait. Monsieur Jaume l'accompagna jusqu'à la grille, referma sur elle la porte sans dire mot afin d'éviter les soupçons de Berthe. Et redoutant en sa ferveur de retrouver celle-ci indécise, il rentra précipitamment. Berthe, au contraire, mieux résolue que jamais, ôtait son manteau dans le salon, puis son chapeau. Monsieur Jaume la prit par la main. Dans l'escalier, ils chancelèrent d'une pudeur ou d'une fièvre qui les rajeunissait. Toutes les fenêtres étaient closes. Un long moment, le pavillon, sous le joli soleil de septembre, parut dormir, sans âme, dans une paix ingénue. Mathilde avait mis dans sa commission beaucoup de longanimité. Pourtant, elle se représenta trop tôt chez M. Jaume. Elle dut sonner 5 ou 6 fois très fort. Enfin, M. Jaume, tout congestionné, soufflant de bien-être, accourut ouvrir la grille. « Ça y est, madame, » dit-il, « à vous maintenant. »
« Oh, pas ce matin !»
Encore un refus ?«
Et comment éloigneriez-vous, madame Baudoin ?»«
C'est juste, je suis attrapée. »«
Rien qu'à demi, voyons !»
Berthe était occupée, dans le salon, à remettre son chapeau devant la glace. Dès l'apparition si brusque de Mathilde, elle affecta de rire, sans détourner d'abord sa figure, dont le vent et la pluie semblaient avoir brouillé le fard et la poudre. Elle minauda.
« Mathilde, je deviens coquette. Est-ce que mon chapeau va bien ? Je l'arrangeais. »
« Il va très bien, » répondit Mathilde qui se pinçait les lèvres.
« Vous n'êtes pas resté longtemps en course. »«
Vous croyez ? Une autre fois ?
Oh, je ne vous reproche rien. »
Monsieur Jaume, qui, dans la salle à manger, préparait sur son bureau le papier et l'écritoire, appela ses dames. « Venez donc, Madame Baudoin voudra bien me délivrer ce reçu. J'ai composé le brouillon, il n'y a qu'à copier. » Tandis que Berthe s'installait au bureau, les jambes encore échauffées par l'orage, Monsieur Jaume s'insinua vers Mathilde, mais sans la toucher, de crainte d'exciter la jalousie de Berthe ou quelque méfiance. Bientôt, celle-ci, de plus en plus alerte, remit le papier au maître de séance, qui, après l'avoir lu avec attention, le serra gravement dans la poche de sa veste.
« Allons, au revoir, monsieur Jaume !»
Les deux tourterelles du boulevard, en un froufrou de leur plumage, s'envolèrent jusqu'à la grille. Mathilde s'écartait soigneusement de monsieur Jaume.
« Adieu, adieu » saluait-elle.
« Au revoir !» Du seuil de sa porte, il les épiait avec chagrin à leur course, le long des pavillons silencieux, lorsqu'au détour de l'allée, Mathilde, toujours méchante dans sa gaminerie, lui envoya un pied de nez. Berthe, de nouveau, éclata de rire, d'une gaieté trop bruyante, comme si l'empreinte du baiser défendu demeurât encore sur son visage. Elle voulut, à la porte de Vincennes, au lieu de prendre le tram, monter dans un fiacre. Là, étendue sur les coussins, bien à l'aise, elle éprouva une joie pleine, l'orgueil de sa force amoureuse. Elle avait vu, dans la chambre de M. Jaume, après qu'il eut ouvert la fenêtre sur le jardin, son coffre-fort garni de pièces d'or, de billets de banque et d'obligations du crédit personnel.
Quelle vie de luxe et de plaisir on se paierait avec les richesses de ce rentier ! S'écria-t-elle.
Oui, ma chère, il a su travailler et amasser. Il ne sait peut-être pas s'amuser, mais on lui apprendrait vite parce qu'il n'est pas bête.
Ah, celui qui peut a bien tort de ne pas cueillir le bonheur lorsqu'il passe sur son chemin.
C'est vrai.
Si nous pouvions, toutes deux,
qui nous en empêche?
Parbleu, on s'entraiderait.
Les hommes ne se gênent pas, allez.
À qui le dites-vous, ma chère?
Mais vous, déjà, mon mari tourne autour de vous.
Nos maris, pourtant, il faudrait les laisser tranquilles.
« Ça, n'ayez pas peur. Avec votre mari, jamais. »«
Voilà qui est raisonnable. Quoi qu'il en soit, on pourrait sortir de temps à autre, rien que toutes les deux. »«
Oui.
Auprès de vous, je me sens plus de verve. »«
Tiens, tiens.
Vous vous moquez à cause de mon âge ?»«
Non, c'est que je me souviens de vos susceptibilités, de vos austérités de naguère. »«
Que j'étais sotte !»
Oui, et très injuste, car je vous étonnerai sans doute, je n'ai pas encore commis, à l'égard de Sébastien, une seule infidélité.
Pas possible. Allons donc.
C'est comme je vous le dis.
Berthe, avec emportement, riait, roulait des épaules, si fort que Mathilde se mit à rire, et pour l'apaiser un peu, ajouta
« Avouez que vous étiez jalouse de moi. »
« Plus maintenant, je vous protégerai s'il le faut. Soyons camarades, ma chère. »«
Oui, toujours. »«
Elles se turent dans la tendresse du soleil qui, partout, sur les façades interminables, sur les arbres rougis par l'automne, répandait l'or léger de ses rayons. Le fiacre les emportait d'une cadence douce dans les bruits du boulevard, la splendeur de Paris. À travers la foule, elles avaient à mesure l'émotion précieuse de s'attendrir, l'une contre l'autre, grisées par la jeunesse éternelle et la beauté du monde. Boulevard Poissonnière, Madame Baudoin voulut, en un sentiment étrange de volupté, de défi, remettre seule l'argent de M. Jaume à son époux qu'elle venait de trahir. Mathilde rentra donc à pied rue Chauchat. Mais le soir, elle n'y tint plus d'aller au magasin, observée de ses yeux, avec une ironie cruelle, la prestance de Léon et sa quiétude. Ce fut Berthe qui l'accueillit.
« Vous voilà, ma chère. N'êtes-vous point fatiguée ?»«
Pas un brin. Et vous ?» Léon s'approchait, fier de féliciter Mathilde Lempéric du succès de sa mission auprès de M. Jaume. Mathilde, avec un accent de générosité, se récria.
« Ce n'est pas moi qui mérite des compliments. Berthe n'aurait eu besoin de personne pour l'assister. Elle sait entortiller un homme. Ah oui !»«
Tout de même, dit Sébastien, qui, sur son bureau-caisse, signait sa correspondance. Ça n'a pas dû marcher tout seul. » Berthe, modestement, baissait les yeux. Tandis que les deux associés se congratulaient de leur bonne fortune, des badauds se rassemblaient devant la vitrine pour admirer Mathilde, toujours éblouissante dans la pénombre, ainsi une étoile d'or. Tout à coup, parmi les badauds, elle reconnut la tête furieuse de Pierre, lequel ne bougeait pas. Il la regardait avidement, les mains sur la poitrine, le cou nu. Ne recevant d'elle aucune réponse à ses lettres depuis quelques jours, il s'était alarmé dans sa solitude. Et ce soir, en retournant à son travail, il venait s'informer si Mathilde était toujours à lui, si elle se portait bien. Mathilde, auprès de son mari qui écrivait, très calme, avait frémi d'étonnement, d'angoisse. Pour cacher son émotion, elle se recula dans un coin d'ombre. Léon et Berthe avaient également reconnu devant la vitrine, sur le trottoir, le maçon stupide. Par compassion, ils abritèrent leur ami de leur corps, ensemble. Mais presque aussitôt, Berthe, en s'inclinant sur son épaule, la rappela d'une voix souriante. Pierre avait disparu, tel qu'un loup, à travers la foule. Le désarroi n'avait duré qu'une minute, sans que Sébastien l'eût soupçonné. Le brave Sébastien travaillait sans relâche, sa tête énorme, penchée sur les livres de commerce. Il méritait, pour sa sagesse, sinon pour ses grâces, d'être récompensé d'une honnête affection. Mathilde s'assit auprès de lui, timidement, comme une chatte. Berthe, cependant, remettait son chapeau, boutonnait ses gants de peau blanche. Une lueur de malice dans ses petits yeux, elle invita Mathilde à se promener sur le boulevard. Celle-ci, paisible, refusa.
« Merci, un autre soir. Je tiens compagnie à Sébastien. On l'abandonne trop, ce pauvre chéri !»
Sébastien leva ses yeux contents sur sa femme, la frôla de sa lourde épaule. Berthe sortit à pas précipités en secouant sa croupe. Léon s'enferma dans le cabinet directorial pour travailler aussi et surtout pour attendre Mathilde, que gênerait sans doute l'attention des badauds, plus nombreux devant la vitrine depuis qu'un employé avait allumé le lustre et les lampes. Une paix laborieuse régna dans le magasin. On entendait les employés assidus gratter leurs papiers de leurs plumes et, au dehors, dans le claquement des fouets, parmi les clameurs et les rires, grondait le torrent de la foule. Mathilde, auprès de son époux docile, dans le recueillement du décor somptueux où s'animait son rêve de prospérité sensuelle, ne songea qu'à la coquetterie, à la domination de sa personne.
« Sébastien !» murmura-t-elle.
« Quoi, mon toutou ?»
Les boucles d'oreilles que tu m'as promises?
Tu ne fais grâce de rien, toi.
C'est le moment de tenir ta promesse. Tu as l'argent de M. Jaume. Tu me dois bien quelque reconnaissance.
Oh oh, tu n'as pas à te plaindre. Il la poussait du coude avec une vivacité grillarde, lui effleurait presque la joue de sa moustache. Ce n'était point des minauderies que souhaitait Mathilde. Elle insista si adroitement, tantôt avec des câlineries savantes, tantôt, au contraire, avec des menaces d'abstinence amoureuse, qui ne se défendit plus. Sans différer jusqu'au lendemain, il avança son chapeau de soie sur le front et, glorieux de plaire à sa souveraine, il partit. «
Tu me retrouveras ici, lui dit-elle. Nous rentrerons ensemble chez nous, bras à bras.
Tu n'auras pas longtemps à languir. » Courtisane empressée, elle referma doucement la porte sur lui. Engagée au travail par le sentiment de gratitude de toutes les bontés qu'on accordait à son corps, elle s'assit au bureau, sur la chaise même de son mari, afin de continuer ses écritures. Hélas, elle ne comprenait rien aux chiffres. En outre, dès qu'elle était seule, sans parler, sans rire, elle s'ennuyait. Aussi, elle chercha, dans le cabinet directorial, à se distraire, auprès de Léon, qui vérifiait sur sa table des comptes de fournisseurs. Elle s'empara d'un journal de sport et, sans bruit, après avoir demandé pardon de son indiscrétion, s'installa sur le fauteuil.
« Vous ne me dérangez jamais, » répondit Léon.
Les mains croisées sur son gilet de velours, il observa fixement, avec mélancolie, cette chose flamande dont la présence seule provoquait le désir. Quelle cruauté délicieuse éprouvait-elle donc, ainsi que tant de femmes, à tourmenter par ses tentations et par ses ruses, plusieurs hommes à la fois? Pourquoi, depuis qu'il vivait dans une étroite intimité, ne l'avait-il pas prise entre ses bras, puisqu'un maçon abusait d'elle? Toujours poli, galant, il perdait son temps en fadaise auprès d'une bourgeoise improvisée d'hier qui n'obéissait qu'aux brutalités de ses pareils du peuple. S'il ne se pressait pas de la vaincre avec franchise, elle s'en irait à d'autres plus virils. Cependant, il n'était pas seulement venu à Paris pour arrondir sa fortune, c'était aussi pour jouir de la vie. Il l'observait toujours, immobile, avec une passion qu'il refoulait en vain. Elle, plongée dans sa lecture, du moins en apparence, ne révélait pas le moindre trouble. Il s'agita d'un malaise en disant « Ça vous intéresse beaucoup, ce journal ?»«
Pas trop, mais je vois que vous n'êtes pas en humeur de rire. »«
Tiens, ça se voit. »«
Vous êtes triste, préoccupé. » »«
Mon Dieu, oui, peut-être. »
Il s'avança lestement vers la porte et après qu'il eut fermé à double tour de clé, il vint avec résolution se planter devant Mathilde, qui, d'abord stupéfaite, demanda
« Pourquoi m'enfermez-vous ? »
« Parce que, il faut que je vous dise. D'ailleurs, vous me comprenez, ce n'est pas d'aujourd'hui que je vous aime. »«
Ah, par exemple, si Sébastien entrait ?»«
Vous ne le craignez pas quand vous allez avec Pierre ?»«
Jamais. »
Plus de mensonges, je vous prie. Voyons, est-ce que je ne vous plais pas, moi ?
Pas du tout.
S'appuyant sur les bras du fauteuil, il se pencha sur elle. Aussitôt, avec frayeur, elle déroba son visage, repoussa de ses poings la poitrine de cet homme trop vieux qui haletait d'impatience. Il pesa davantage pour la contraindre, dans une ombre, à subir le contact de sa barbe, la clarté de ses yeux.
« Si vous ne cédez pas, Mathilde, je vous dénonce !»
« Croyez-vous que j'ai peur ?
Votre maçon ne vous répugne pas ?
Écartez-vous, lâche !
Et vous ?»
D'une poussée plus rude, elle se délivra, et debout, bien en face de lui, tandis qu'il frémissait encore de sa convoitise, elle le menaça à son tour.
« Au lieu de violenter si grossièrement les femmes de vos amis, vous devriez surveiller la vôtre. »«
Ma femme ?
Puisque vous me dénoncerez, paraît-il, je me défends. »
« Ma femme, mais personne n'en voudrait. »«
Quelqu'un en veut. Il y a des amateurs. »«
Qui donc ?»«
Je vous dirai ça plus tard, si vous êtes sage. »«
Ma femme ?
Ha 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 ! Prenez garde, vous riez amer comme croque-mitaine. »
Dans son agitation, il découvrit la porte. Mathilde, au lieu de fuir, resta devant lui, fière.
« Que m'importe, après tout, ma légitime ? » reprit-il sourdement. « C'est vous que je veux. »
Elle le regardait plus proche. Ses traits sensibles, contractés par l'orgueil, elle répliqua
« Mon mari va rentrer. Si vous continuez, je lui raconte bravement vos ignominies. »
« Allons donc. »
Il redouta, dans sa pensée orageuse, le danger de rompre avec Sébastien, de perdre à jamais Mathilde. Il eut honte de sa défaillance et, lentement, il revint s'asseoir à la table de travail. Sans lever le front, il maugréa
« Je vous attraperai bien un jour ou l'autre. »
Elle s'inclina d'une révérence moqueuse pour lui répondre
Vous ne m'attraperez pas avec ces moyens-là, j'en suis sûre. »
Elle lui tourna le dos avec dédain et sortit tranquillement.